Bonjour à toutes, bonjour à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la moto et des motards sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com et le DAB+ aussi. Des trahisons, dérapages médiatiques, lutte d'influence, bataille politique. Rebondissement, 1978-1996, la moto française dans tous ses états. C'est au sommaire aujourd'hui de cette émission avec la participation de Jean-Michel Meunier du Vauxhall Club. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi Jean-Michel ? Parce que tu es un féru de moto française. Tu ne roules qu'avec des motos françaises d'ailleurs. Dans ton garage,
oui,
tu n'as que ça.
Un Vauxhall Club, donc c'est des Vauxhall et une BFG.
J'ai aussi, justement, ça va être le thème de cette émission. On va revenir sur l'épopée, la saga donc de cette fameuse moto qui a commencé en 1978, oui. La BFG.
Oui, en 78, effectivement, il y a un proto qui a été fait par Monsieur Bocardo.
Alors, lui, c'était l'ingénieur en mécanique.
Le technicien, l'ingénieur qui a essayé d'assembler une moto.
Ça s'est mal passé avec lui.
Ah, ça s'est très mal passé.
Il faut dire qu'on s'est inspiré pour faire cette émission du bouquin de Thierry Cazenave, qui est très intéressant parce qu'on a pratiquement l'histoire. Il y a des enquêtes. C'est du journalisme
d'enquête.
De recherche.
Par Thierry Cazenave, oui.
Et dis-moi un peu les motos que tu as dans ton garage.
On a deux Vauxhall, donc un Street Scrambler de 2006, wow. Une VX10 de 2013-2010, parce que celle-là, c'était une rescapée. Voilà, elle était à l'usine, à la vente aux enchères. Puis après, on a une BFG attelée avec un sidecar JEP.
Alors tu vas nous dire un petit peu les avis, parce que j'ai pu lire dans le bouquin de Thierry, comment elle se comporte. Il y a du couple, c'est une machine apparemment qui a l'air assez lourde.
Elle fait
300 kilos. Hein,
300 kilos.
Quand elle roule après...
Ah oui, c'est un vrai vélo. Oui, ça roule très très bien. Et ils ont fait du rallye avec.
Est-ce que tu as fait beaucoup de kilomètres avec ? Est-ce que tu as fait de.
Ah, nous,
est-ce
non, que ça fait que
tu peux faire un essai réaliste, réellement.
On a récupéré une vieille BFG qui avait bien vécu, qui avait au moins les 200 voire 300 000 kilomètres. Donc là, pour l'instant, on fait des petites routes avec. Pour les grandes routes, c'est plutôt les Vauxhall.
Donc elle est de quelle année cette BFG ?
Elle est de 1983, c'est la 209.
Ah oui, d'accord.
Sur 600 et quelques.
Très bien. Je te présente Jean-Yves Ballois. Alors là, tout le monde le connaît, Jean-Yves.
Bien sûr.
Ah, Jean-Yves. Et lui, il a construit.
Alors,
il a construit comme une BFG. Il a pris le moteur. Il a fait un peu comme donc Grange et Favario là. Hein. Il a choisi le moteur de la GS parce que effectivement, c'était le concept. C'était de prendre un moteur de voiture. Mmh. Voilà. Et il a pratiquement construit sa moto.
Bah oui, l'idée m'est venue en 72. J'étais au service militaire. Je faisais les chamois à Praloup. Et il y a un mec qui était venu avec un Bizza. Il avait un moteur Volkswagen. Et il y a eu des ennuis de moteur. Il a viré le moteur du cadre. Il est descendu en stop chez un casseur de Barcelonnette. Il est remonté avec un moteur. Il est remonté dans le cadre et puis il est reparti chez lui, tranquille. Donc je me suis dit, au moins, les pièces bagnoles, on en trouve partout en France. Et donc, si je veux être tranquille pendant très longtemps, il faut un moteur de bagnole. Et c'était un mauvais calcul parce que maintenant, essayer de trouver des pièces Citroën de ces années-là, c'est difficile.
Très bien, on a 90 minutes pour en parler. Hein.
Bien sûr.
Voilà. Et on salue notre ami Laurent à la technique. rendez-vous de la moto, c'est sur Campus tous les dimanches à partir de 11h sur le 106,6. Aujourd'hui, un spécial, alors je sais pas, Jean-Michel, un spécial BFG, on s'est dit, tiens...
Oui, un spécial...
BFG ou Bocardo, on va commencer Bocardo, parce qu'on s'est inspiré, je répète, de...
C'est lié, BFG, Bocardo et MF sont liés, voilà, par Monsieur Bocardo.
De ce bouquin, voilà. T'as une réédition apparemment, t'as pas la même couverture que moi, moi je l'ai acheté il y a une quinzaine d'années. Voilà.
Ouais,
donc on va commencer par. Ouais, t'as pas eu le temps de le lire encore.
Si, j'ai lu. J'étais traumatisé parce que c'est passé.
Ah mais moi je pensais que tu le connaissais.
Tu l'avais déjà. J'avais des a priori sur l'histoire, mais je pensais pas que c'était.
Ah mais c'est une saga. Hein,
c'est une vraie saga.
Ouais. Alors, alors les deux, le Grange et Favario, quand ils décident de construire une moto française, ils savent pas où ils vont. Hein. Ils savaient même pas qu'ils allaient rencontrer le président de la République, qui était à l'époque François Mitterrand. Ouais. On va revenir un peu sur l'histoire. Voilà. Mais tu voulais commencer par la fin.
Oui,
tu voulais commencer par la Bocardo Aero 97 qui était construite où ?
À la Ferrière, je crois.
Oui, là, plus près de Valenciennes.
Près de Valenciennes, hein, oui. Voilà. Alors que les motos qui étaient faites avant, par exemple les MF, elles étaient faites à Vendôme.
Oui, c'était Vendôme.
Oui,
alors les BFG, parce que il faut dire que Bocardo a travaillé, on va en revenir après, hein, a travaillé pour BFG. C'était lui l'ingénieur en chef mécanique. Oui. Les deux autres, ils cherchaient du pognon, l'autre, ils faisaient du démarchage, tout ça.
Voilà.
Et l'ingénieur mécanique, c'était lui, Bocardo. Et puis après, il a travaillé aussi, Bocardo, pour MF. Hein,
pour MF.
Et voilà. Et après, mais à chaque fois, il était viré, c'est bizarre.
Oui,
il s'est fait virer. Hein.
C'était pas bizarre parce que quand on connaissait le mec.
Alors, Jean-Yves, il a mangé avec lui.
J'ai participé.
Est-ce qu'on plante déjà le caractère du bonhomme ?
Non, c'était un arnaqueur.
Alors, c'est un arnaqueur. C'est pas dans le livre. Hein. Là, Thierry Cazeneuve, il dit pas que c'est un arnaqueur, mais c'est.
Il est vite.
Il dit qu'il est incapable de. Il sait faire un proto, mais il est incapable de faire de la production. Quoi.
Voilà,
construire une moto, comme Jean-Yves, par exemple, lui, il a construit sa moto. Mais après, la construire à 10 000. 20 000 exemplaires par an à un prix compétitif, c'est autre chose.
Non, il n'était pas capable.
L'industrialisation, passer du proto à l'industrialisation, c'est tout à fait un autre métier.
Voilà. Alors, donc, on commence par la fin du bouquin, cette fameuse Bocardo Aero 97. Il vient de se faire virer par MF. Il y a un an et demi.
Oui, donc au salon 87, il sort une moto avec un moteur essence. Un 1200 de 97 chevaux. C'est un moteur qui vient de la Française de mécanique, pas loin d'ici. Un moteur TU. Et là, Bocardo, comme on a dit juste avant, il s'était fait virer des sociétés avant. Là, il est seul maître à bord. Il cherche simplement des financiers.
Oui, voilà, là il s'est dit, fini, maintenant je suis le capitaine du vaisseau et je risque pas de me faire évincer.
Au salon 87, il en présente deux protos. Il dit à tout le monde qu'il y a une étude de faisabilité qui a déjà été faite depuis février, donc depuis pratiquement un an, qu'il y a 10 protos qui tournent depuis le 31 mars. Donc avant le salon, les motos tournaient, alors qu'on n'en voit que deux au niveau du salon. Il demande qu'elles seraient disponibles en avril de 88, donc juste après le salon. On pourrait avoir des motos, elles sont faites avec une usine robotisée, enfin toutes les dernières technologies. Et du coup, il y a des aides, entre autres, du conseil de... Pas-de-Calais, quoi, j'ai noté ça, mais voilà. Il y a eu des aides.
La région du Nord, quoi.
La région du Nord, d'accord. Et en réalité, on s'est aperçu après qu'au salon, il y avait juste une moto, un proto et une maquette en bois.
En bois.
Il n'y avait rien qui était fait, l'atelier était vide, c'était un tout petit atelier de 200 mètres carrés. Mais il avait dit qu'il avait fait plein de choses.
Donc, commencer à produire dans un atelier de 200 mètres carrés, ce n'est pas possible.
Donc, il était déjà un peu mythomane en plus.
Donc, c'était une essence.
Et il va sortir un gros coup de pub. Il va nous dire...
Oui. Donc, il va déjà revenir en avril 89. Donc, 87, ça n'a pas trop marché, son idée. En 80, plus rien. Et en 89, d'un seul coup, il revient. Et il dit, bon, voilà, on a déménagé, on a 1200 mètres carrés au lieu de 200. On a embauché des techniciens et on va, comme les gens n'avaient plus trop confiance dans ces idées, je sors une moto diesel.
Alors là c'est le scoop. Parce
c'est un bluff.
Alors dans les journaux, hein, Moto Journal, Moto Revue, c'est...
Tout le monde en parle.
Le gros, en gras, hein, le gros titre.
Première mondiale.
La première mondiale, la moto diesel française.
Donc dès le début, il dit bon voilà, je vais présenter ça. Elles sont déjà au point. Il y en a, on n'a pas en France, mais en Europe, il y en a qui tournent, dans tous les pays. Ils font des tests.
Alors
il y en a
34. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il dit que finalement, il vend beaucoup de motos en Espagne, en Allemagne, un peu partout. Hein.
Et on n'en voit pas en France.
Et on n'en voit pas...
Donc, c'est un peu normal parce que effectivement, toi qui connais les Vauxhall, il y en a plus en Allemagne qu'en France.
Oui, hein. Ouais. Non, mais Jean-Yves, tu connais pas la fin de l'histoire. C'est qu'il n'y a jamais eu de moto vendue en Allemagne ni en Espagne.
Ça ne m'étonne pas de la part de Bocardo.
Voilà.
Ça.
Voilà. Donc, du coup, y a des demandes de clients. Voilà. Il y a des demandes de clients au niveau des Bocardo diesel et il n'y a toujours rien qui vient. Pas de moto qui sortent en France, il n'y a pas d'essai. Donc les journalistes se demandent quoi, mais ils disent toujours ah ben non, elles sont en essai à l'extérieur, elles sont vendues à l'étranger, ça va bientôt arriver en France.
On préfère le marché étranger qu'intérieur, que le marché français.
À partir du 27 novembre, ça doit être 89, oui. Les salariés se mettent en congé, ils sont pas payés, donc ils essayent de faire une rupture de contrat. Ils dénoncent comme quoi ils peuvent pas travailler, il y a rien, il y a pas d'argent et il y a pas de moto. Et c'est à partir de là que juste avant la faillite, on s'aperçoit qu'il y avait que deux motos qui tournaient, une essence. C'est une diesel. Et les gens qui avaient déjà acheté des motos, les motos n'étaient pas faites. Donc il y a des gens qui sont venus les monter eux-mêmes. Il y en a une, bon, son surnom c'est Désirée, elle a été faite sur place. Voilà. Et au final, il y a eu deux montées, trois diesel et deux essence. Avec des motos qui n'étaient pas du tout identiques, parce qu'en fin de compte, le cadre par exemple était fait sur mesure. La moto était là, on mettait le moteur, il fabriquait le cadre et seulement après il faisait les plans. Et chaque moto avait un cadre différent. Et il n'y avait aucune étude.
Donc à chaque fois, t'avais un proto en fait.
C'était à chaque fois un proto.
Au moins, ta moto elle ne ressemble pas à l'autre.
C'est maintenant, il n'y en a que quatre qui tournent, qui sont recensés.
Donc alors, on a retrouvé une moto, une diesel, une aéro diesel.
Oui, il y en a une pas loin.
On sait qu'elle est ici dans la région lilloise.
Elle est en train d'être refaite.
On a voulu enregistrer le bruit parce que j'ai curieux de savoir le bruit que ça fait, une moto diesel. Mais. Apparemment, elle ne tourne pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi, pas de batterie ou
le moteur n'a pas été refait.
Ou le moteur est grippé. Ou...
Voilà, j'ai pas pu avoir le propriétaire.
Est-ce que ça a roulé vraiment? Est-ce qu'elles ont roulé?
Donc, apparemment, elles roulaient bien, celles qui roulaient. Elles étaient attelées.
La présentation auquel j'ai assisté, il y avait des journalistes. Il avait fait ça à l'occasion d'un repas dans la région de Valenciennes. Effectivement, la bécane partait, faisait 300-400 mètres, faisait demi-tour et revenait.
Oui, 400 mètres. Oui,
non,
400
mètres. Non, mais
parce que le problème de
qui roulait. Mais alors, par contre, le bruit, franchement, ça ne m'a pas frappé parce que c'était pas. C'était fort filtré, donc il n'y a pas de problème.
C'est pas la première moto diesel qui existe, hein, parce qu'il y a les Indiens qui ont fait un diesel. Enfield. Et donc le but, ça consomme, je ne sais plus, 3,5 litres, je regardais sur le.
Un couple énorme. Hein, donc,
alors, un couple énorme, 3,5 litres.
Une longévité énorme aussi.
Mais le gros problème, c'est que c'est lourd, c'est plus lourd un moteur diesel quand même.
C'est nettement plus lourd.
Et puis, il faut une grosse batterie pour le démarrer.
Enfin, il faut ramener ça à la technique actuelle. Maintenant, une moto de 300 kg en 1200, 1500 et même au-dessus, c'est tout à fait courant.
C'est courant,
à l'époque, une moto de 250 kg, c'était considéré comme un monstre.
Voilà, et aussi, c'est les vibrations, hein, parce qu'un diesel, ça vibre quand même.
Oui, rappelez-vous des Norton Commando qui étaient montés sur
Cylindre bloc. Voilà, et c'était pourtant pas des diesels.
C'était pas des diesels.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, le personnage, qu'est-ce qu'on peut en penser?
Il a arnaqué pas mal de
personnes. Alors, il nous dit qu'il vend, je sais plus combien, des centaines de motos en Allemagne, en Espagne, tout ça. Et au final, quand on fait l'inventaire, on se rend compte qu'il n'y a que trois motos essence et deux diesel ou l'inverse, je ne sais pas.
D'accord, et
l'argent, on lui a donné de l'argent parce que comme il ne vendait pas, il fallait bien qu'il trouve de l'argent quelque part.
Il n'a jamais développé.
Et donc, c'est la région du Nord, Pas-de-Calais.
Oui, c'est la région qui a payé.
Le Grand Nord qui a subventionné. On comprend les politiques, parce que c'est l'époque aussi le chômage augmente. Oui. Et donc, forcément, dès qu'un projet, un industriel arrive avec un projet, et qu'il dit, écoutez, dans deux ans, moi, j'ai ces 50 salariés en plus.
Tout le monde y a cru.
On peut comprendre ces gens-là qui peuvent y croire.
Bon, bien avant ça, Motobécane avec ses 125 et ses 350, il a lâchement été abandonné par le gouvernement.
Mm-hmm. Oui, pareil.
Bocardo, BFG,
on va revenir après.
Avec des contrats de marché français, et jamais les politiques français n'ont cru à la moto. Même les motards français n'ont jamais cru à la moto française. Ça, je peux vous le dire, parce que oui, j'ai bien suivi l'époque.
Quand on a des Vauxhall, c'est pareil, ça n'a pas été suivi.
On va revenir un peu après BFG, parce que c'est quand même... moi, quand on lit le bouquin, les deux, là, Favario et Grand, ils se sont vraiment mis un doigt dans le nez. pour vraiment... S'ils y croyaient, vraiment. Alors Jean-Yves, t'as mangé avec ce gars-là, Bocardo. Tu me dis... tu lui dis, alors pour avoir une idée un peu de ses idées, une idée de ses idées à lui, justement, oui.
J'étais à côté de lui lors de sa présentation à la presse et à la foule de l'Odyssée, enfin à l'époque il l'appelait l'Odyssée, la Diesel. Et c'est un mec qui m'a dit qu'il avait fait le CNAM. Comme moi j'ai fait le CNAM également, on a causé un peu plus, puis comme j'étais assis à côté de lui, on a pu rentrer un peu dans le domaine un peu plus personnel. Et là je me suis aperçu que c'est un mec, moi, que je qualifierais d'infect. En fait, il ne pensait qu'à faire du fric. La technique, il prenait des arguments techniques pour valoriser son projet, mais en fait, vous voyez, il n'était pas passionné par ce qu'il faisait. Ce qui l'intéressait, c'était l'aspect financier, se faire le plus de fric possible. Et moi, je l'ai trouvé...
C'est ce que tu as ressenti.
C'est ce que j'ai ressenti. Et donc, c'est quasiment... Il se foutait de... Il disait que ses ouvriers foutaient rien, que ses techniciens, ils étaient à la ramasse. Enfin bref, c'est... Le mec débinait son personnel. Moi, ça m'a laissé sur le cul.
Bon, voilà. Ça, c'est le personnage, Bocardo. Parce qu'on va voir que c'est vrai que c'est le roulement qui grippe à chaque fois dans l'histoire BFG.
À chaque fois qu'il y a une moto qui va...
Dans l'histoire BFG, c'est le roulement qui grippe, c'est Bocardo.
Qui est foiré, ouais.
Et après, il part chez MF. Il crée la marque MF avec un autre gars. Là, et c'est pareil, c'est le roulement qui grippe. Voilà. Et après, il fait Bocardo et Héro. Donc là, c'est lui le patron. Et ça grippe aussi. De toute façon, ça grippe tout le temps.
Mais de toute façon, la MF, c'était une aberration. Parce que moi, quand j'ai fait mon proto, je me suis dit... m'emmerder pendant, moi ça m'a pris 10 ans quasiment, à faire une bécane pour rouler au maxi à 130, parce que c'était un bicylindre de l'ami je ne sais plus combien, enfin de quasiment de la Diane, c'est une bécane qui est bridée à 130 avec très peu de chevaux et une faible cylindrée. Alors, dès le départ, c'était un échec commercial.
Oui, mais on va voir ça, effectivement, on prenait le moteur de la 650, donc c'était la...
La X,
hein, donc qui manquait cruellement de chevaux.
35 chevaux.
Oui, 35 chevaux. Ouais. On verra ça après, mais ils avaient réussi à dire qu'elle faisait. Ils avaient trouvé des solutions pour la passer à 50 chevaux. Je sais pas où vous avez trouvé les 15 chevaux.
On n'a jamais trouvé.
On a changé les pots. On passe un morceau de musique et on se retrouve juste après parce que là, on va enchaîner avec BFG quand même.
D'accord.
We'll be right back.
Toujours le rendez-vous de la moto, c'est le, tous les dimanches à partir de 11h sur le 106,6 de Radio Campus Lille. Jean-Michel, oui, c'est ça?
Oui, bien sûr, c'est ça. C'est ton émission, c'est toujours ça, 11h. Oui, tout à fait.
Ouais. Et il paraît que tu es prof de gestion, c'est ça?
De gestion de production.
De production, ouais. Bah, Bocardo, on aurait besoin.
Oui, on aurait besoin, oui.
Gérer la production, les stocks, improvisionner le matériel.
Non, ouais, ça, je pense que toute sa vie, il a fait que des bêtises.
Et voilà. Allez, on rentre dans le dur. On va rentrer donc la naissance de. C'était en 1978.
En 78.
BFG. Ouais. Alors, BFG, ça veut dire quoi? Bocardo.
Ah, Bocardo, Favario et Grange.
Et Grange.
Alors, Favario et Grange, ce sont des gestionnaires. Hein,
Alors, moi, j'ai eu, c'est dans le bouquin de Thierry Cazenave. Donc, apparemment, c'est des professeurs de gestion et de marketing.
Voilà.
Hein, ils bossent et tous deux roulent en moto. Il y en a un qui roule en Norton Gushken. Bonne référence, Jean-Yves.
Ouais, bah oui, oui.
C'était l'époque en 78.
Il y en a
qui ont
les moyens, effectivement.
Et l'autre, il roule en 650 Yamaha et BMW R90S. Et ils se disent, mais pourquoi on ferait pas une moto française? Pourquoi on n'arriverait pas à construire une moto française?
Voilà, de grand tourisme hein, qui ferait la concurrence au Goldwyn.
Alors ils vont...
BM série 7.
Oui, effectivement, alors là, il faut que je tourne ma page, hein, parce que on a bien préparé ça. Hein. Il y a le problème, c'est de dire, mais oui, on va construire une moto française.
Mais pas de technicien.
Mais parler, c'est bien, mais le faire, voilà. Donc, c'est beaucoup mieux.
Ils ont trouvé un technicien qui s'appelait Bocardo.
Donc voilà,
c'est le B de BFG.
Donc ces deux, Mario et Thierry Grange, ça c'est des gens qui vont aller chercher le pognon, du marketing, tout ça, qui vont faire connaître. Et puis il leur faut un autre personnage qui est Bocardo, hein,
qui avait travaillé avec Alain Chevalier,
qui a fait le CNAM.
Comme
Jean-Yves l'a dit, donc, et qui est capable de pouvoir construire une moto.
Oui.
Voilà. Et donc là, ils vont faire le transfert de technologie.
Oui,
un transfert de technologie, c'est-à-dire que faire un moteur, ça coûte très cher. C'est des millions, des millions de francs. À l'époque, c'était en francs. Hein.
Et puis, ça demande aussi des compétences extrêmement variées. Les motoristes, c'est toute une carrière. Et c'est très difficile. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, et surtout qu'un projet un peu utopique sur les bords, les gens doivent y croire.
Alors,
parce qu'ils bossent pour rien.
Pour les deux là, c'est pas utopique. Ils y croivent, mais vraiment.
Bien sûr, oui, ils y croient.
Hein, bec et ongles, hein, ils y croient. Hein.
Sur le papier, c'est faisable.
Parce que quand on suit après... oui, pardon, le bouquin, il fait 600 pages.
600 pages.
Ils vont tout faire pour essayer pour aller jusqu'au bout. Hein, du
l'idée,
projet,
c'était
hein.
de vendre un concept, ouais. Un grand fabricant.
Alors, le transfert de technologie, c'est quoi? Comme ils n'ont pas les sous pour faire un moteur, ils vont aller chercher un moteur dans l'automobile.
Voilà, pour que ça puisse coûter le moins cher possible.
Comme toi, Jean-Yves.
Oui, comme Jean-Yves.
J'ai fait, voilà. De toute façon.
Comme tu as fait sur ta Monstro.
Ils ont pris la même base.
Ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient, eux, les moyens. Ils ont pu développer une boîte spéciale. C'est pour ça qu'ils ont pris le 1300, parce que moi, j'ai pris un 1220, parce que le 1220 monte la zone rouge à 7005. Alors que le 1300, la zone rouge est à 6005, si je me trompe, ou même plus bas.
Je regarde sur la mienne.
Oui, mais donc... il fallait vraiment une boîte spéciale. Eux, ils ont eu les moyens de la faire. Moi, j'ai.
Alors, ils ont
d'abord commencé.
Alors, au début, ils n'ont pas eu les moyens de la faire parce que c'était donc l'ingénieur en chef là, Bocardo. Hein, il va aller chercher une boîte. Mais on brille les étapes. Hein, il va aller chercher le machin. Donc, le transfert de technologie. Et puis, c'est bien d'avoir. Ils vont prendre le moteur Citroën GS.
Oui.
Ils vont se dire, c'est fantastique parce que il y a déjà le réseau de concessionnaires.
Oui, sauf que les concessionnaires
et si tu roules en, et si tu roules en GS, et ben tu t'arrêtes dans un garage Citroën.
Oui.
Et si tu as un problème, tu peux faire réparer par le garagiste.
Théoriquement, c'est le même phénomène avec l'Atzos, hein, qui avait un moteur de Peugeot. En fait, les concessionnaires Peugeot ne voulaient absolument pas mettre les mains dans un Zeus. Ah oui.
Donc, c'est ce qu'ils se disent, et pour eux, ça ne peut que marcher, ça ne peut que fonctionner.
Oui, et du coup, alors le problème, c'était la boîte aussi. Donc, ils ont fait le concept et ils ont d'abord commencé le proto avec une boîte de motocusi. Sauf qu'avec le couple qu'il y avait, la boîte n'était pas assez puissante, elle cassait. Donc, ils ont demandé gentiment à motocusi de modifier et on leur a répondu, non. La moto, le premier proto avait une boîte motocusi qui cassait souvent,
qui ne ressemblait pas du tout
à la moto, à la BFG qu'on connaît.
Ils avaient un problème d'arbre qui est... parce que la BFG, le couple était beaucoup plus important que sur la Guzzi, donc forcément l'arbre cassé, forcément, et donc là ils ont des gros problèmes. Je reviens donc à Citroën, le choix du moteur aussi. Ils se disent que les pièces, comme à l'époque, c'était le moteur était vendu à 25 000 exemplaires par an, voire plus.
Et puis c'était un moteur refroidissement par air.
Et c'est aussi refroidissement par air. Donc c'était très intéressant pour eux.
Complexe.
Et puis les pièces ils se sont dit que les pièces seraient moins chères, forcément, puisque de toute façon, un moteur très vendu, très répandu. Et puis qu'il suffisait de simplement construire le cadre tout autour du moteur.
Voilà, ça c'était l'idée. Ouais.
Voilà, on part de là-dessus.
Donc ils ont demandé à Bocardo de faire
là, ils vont
le
rencontrer,
premier proto.
C'est, alors c'est un ami qui va les refaire rencontrer donc Bocardo, hein, parce ouais. que voilà, le projet y est planté, ça y est. Là, et puis on va passer un morceau de musique et après on va raconter les premiers essais justement. Et avec notre ami Bocardo qui va justement aller chercher cette boîte.
Ton ami.
notre ami Bocardo qui va aller chercher, il se dit mais comment, parce qu'on a le moteur mais il faut faire la boîte et puis il faut faire la transmission secondaire, il faut aller passer la puissance à la roue arrière et ça coûte très cher aussi le problème à développer,
il faut pas qu'il n'y ait pas d'argent non.
Voilà, allez on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. Jean-Michel, on revient un petit peu à cette saga de la moto française, hein, des années 76, 78, 96, hein, la BFG Bocardo Fabrio Grange. Voilà. À l'époque, années 78, il n'y a pas de grosses cylindrées.
Non, non, il n'y a que la Goldwyn. Et puis...
Alors, il y a la Honda Goldwyn qui fait 1000 cm cubes.
Voilà.
La Flat Four.
Y a... Oui, oui, voilà. Mm-hmm. Et il y a la BMW. Alors, oui, BM, c'est, je ne sais même pas.
C'est la série.
Il n'y a même pas la K100 parce qu'elle sort après la K100.
La série K était juste après.
C'est juste après.
Ils se sont inspirés, de la BFG. Mm-hmm. Et eux, ils ont sorti un produit qui était abouti.
Oui, oui, mais alors, ils ont dépensé je ne sais plus combien de milliards pour construire l'usine.
C'est ce que voulait faire.
Pour faire l'étude. Et faire l'étude du moteur.
Le BFG voulait vendre le concept à. À Peugeot ou à Motobécane, et voilà, et personne n'en a voulu.
Voilà. Oui, alors il y a aussi Moto Guzzi qui sort. Il y avait à l'époque, c'était la 750, il y avait la 750 Calife.
La 850,
850 Calife, Calife à l'époque. Hein. Oui. Voilà. Et donc, et c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi ce moteur, hein, 1300 cm3 de l'AGS, hein. Bon, moteur de voiture. Ce qui fait que les motards à l'époque, quand ils ont vu ça, ils ont dit oh là là.
Ah ouais, ils étaient réticents au début. Oui. Après, les gros rouleurs ont dit ah, bon,
parce
que mettre un.
Il faut savoir que quand même, en 78, il y a quand même entre les caissistes et. Enfin, nous, on les appelait comme ça
oui,
à l'époque.
Oui,
hein, voilà. Nous, les caisseux, ouais. Hein, on n'était pas trop copains. Hein. Et d'un seul coup, on voit arriver un moteur de bagnole dans sur une moto. Citroën en plus. Alors, tu roules en Citroën, toi, ça peut pas le faire.
Ah non, ça le fait pas.
Voilà. Voilà. Alors après, il y a les premiers tours de roue, hein, donc le test proto là. Donc effectivement, le moteur, en gros, il y a des petits problèmes, mais cette transmission qui provient hein, d'une moto Guzzi, d'un pont de moto Guzzi, hein, et qui casse.
Qui casse. Donc il voulait il voulait de l'argent, donc il voulait que les sociétés puissent investir. Et du coup, il y a eu des audits qui ont été faits. Et ils se sont aperçus qu'au niveau des audits, que la moto, le proto, ne pouvait pas être commercialisé. Et qu'il fallait se séparer de celui qui gérait. Et il fallait se séparer de M. Bocardo.
Ah oui, vous y virez.
Parce que voilà, donc ils l'ont gentiment viré.
Mais ils l'ont pas dit dans la presse.
Ils l'ont
en fait.
Pas dit. Ils ont pas voulu.
Ça va leur retomber dessus, ça.
Ils n'ont pas voulu faire de contre-publicité. Oui. Et voilà, comme quoi c'était incompétent. Voilà. Donc c'est passé comme ça. Et les équipes suivantes, ils ont développé. Comme ils ne pouvaient pas avoir de boîte Guzzi, ils ont développé leur propre boîte. Donc ça leur a coûté très cher.
Voilà, l'équipe suivante, c'est Deschenaux et Agnolet, c'est ça?
C'est ça, oui. Donc là, ils vont
remplacer donc Bocardo. Et je reviens un petit peu à l'époque sur l'attitude des pouvoirs publics, parce que en fait, il faut savoir que en 78, le déficit de la balance commerciale en matière de moto atteint pratiquement 500 millions de francs. C'était en francs à l'époque. Hein. Ça fait, je sais pas, en euros, ça fait combien, c'est bon, une calculette. Voilà. Et de fait, en ces temps de crise où la réduction de ce déficit devient un enjeu électoral, et donc, quand il y a des gens qui arrivent avec un projet de construire une moto, en plus une grosse moto, une 300 cm3 avec un moteur de voiture, parce que j'avais vu le pourcentage de pièces, c'était pratiquement 95% de la moto était française.
Bah oui.
Ouais. Oui,
les freins qui étaient les freins, les alors, roues, les fourches, alors, voilà.
Oui, il faut revenir aussi, c'est qu'à l'époque, faire une moto, la France est un désert. Alors que je dis explique un désert, il n'y a plus de fabricants de pièces, il n'y a plus rien.
Ah non, il n'y a rien du tout.
En 1930, il y avait encore, la France était encore.
On avait des dizaines de marques.
On avait des dizaines de marques. On pouvait aller piocher chez l'un ou chez l'autre pour avoir des roues.
Les poignées Magura, les leviers, etc. Mais
là, c'était.
Et puis on a perdu. On a perdu pratiquement.
Mais à cette époque-là, politiquement parlant, déjà, les présidents successifs voulaient détruire l'industrie française. La machinerie française a été détruite.
On va revenir après. C'est pas vraiment le président, parce qu'on va voir que le président, qui était François Mitterrand à l'époque,
et en 81,
qu'est-ce qu'il fait? Son escorte au G7, alors c'était le G7 à l'époque, l'escorte présidentielle sera faite de
BFG.
Voilà. Et vous savez ce qu'il va faire aussi? Il va offrir à Juan Carlos, c'est ça,
le
roi d'Espagne, une BFG, parce que c'était un motard. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il a pas essayé de promouvoir cette marque.
Il a fait un peu
cette
de publicité pour ça. Mais après, il n'a pas donné les moyens pour que ça.
Ah mais non, mais alors après, il y a aussi dans le bouquin, il y a aussi l'histoire de Peugeot Motobécane. Hein.
Oui, il y avait
alors, Motobécane qui sort du gros le four avec sa 350 motobikes, le 3Sienne.
Voilà, il voulait dire
alors là, c'est la catastrophe. Hein. Ils ont investi, je ne sais pas combien de centaines de francs, hein, de milliers de millions de francs. Et ça
a été vendu dans un réseau de mobilettes.
Et manque de bol, c'était.
Et en plus, les paliers centraux de Vibrequin étaient des roulements à vie. Et donc, dans un deux temps, des roulements étanches, ça ne peut pas durer longtemps. C'était forcément, dès le départ, voué à mourir
donc,
très vite.
Donc, Motobécane, c'est 4000 salariés. 4000 salariés. Je rappelle qu'on est à l'époque où il y a 2 millions de chômeurs, 2,5 millions. Et ça augmente. Alors donc, forcément, l'État, tu vois, au sommet de l'État, on se dit, attendez, il faut faire quelque chose. Hein. Donc, Motobécane, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'allier avec... Tu veux le savoir, Jean-Mi?
Bah, ça doit être Yamaha.
Voilà.
Et puis, voilà. Les concurrents, donc Peugeot.
Et Peugeot, il va s'allier avec qui?
Avec Honda.
Et voilà.
Voilà. Et c'était le fabriquer des mobilettes.
Voilà.
Des petites cylindrées. Voilà. Ils n'ont pas voulu suivre.
Sauf que le gros problème, c'est construire des petites cylindrées. Quand tu vois une petite cylindrée, ta marge, elle est réduite. Voilà. Que sur une grosse cylindrée, comme la 1300, la marge, au contraire, elle est conséquente.
Voilà. Mais ils n'ont pas voulu suivre le projet.
Alors, le problème, c'est que BG va essayer de. On a franchi 200 pages du bouquin.
Oui, bien sûr.
BG se dit, au moment où il va falloir passer à l'industrialisation de la moto, il va s'adresser à Citroën et dire, écoutez, pourquoi ça marche? Regardez, parce que c'est vrai, ça, à la fin, cette moto, elle était belle, elle marchait,
elle était fiable.
Mais on l'a dit en début d'émission, un proto, c'est bien.
L'industrialiser, c'est un
autre. C'est autre chose.
Là, ça leur coûtait beaucoup d'argent.
Et c'est là que ça va pêcher.
Ça va coincer. Ouais.
Ouais. Voilà.
Today.
Voilà, on retourne sur cette saga de la moto française des années 78-96 avec le projet BFG, hein, Bocardo, Favario, Grange, Jean-Michel. Et tiens, on va répéter que, bah, voilà, moi je l'ai, hein, on arrive, c'est page 37 du bouquin, hein, parce que c'est beaucoup inspiré de ce fameux bouquin de Thierry Cazenave, oui. qui est vraiment bien, c'est du journalisme d'enquête. Hein. Voilà, le départ, hein, de cette fois-ci de Louis Bocardo, parce que là, c'est là on a dans le bouquin la caisse centrale des banques populaires, hein, qui envoie un courrier à Grange et Favario qui dit on ne vous suit plus si vous conservez en gros
cet ingénieur,
l'ingénieur en chef.
Voilà, il faut faire quelque chose, il n'est pas capable.
Tu l'as dans tes notes, oui.
Donc ils veulent dire que c'est une production d'amateurs. Voilà. C'est le contrôle du projet d'engagement financier.
Et que ça peut
pas possible.
C'est pas, voilà, et c'est la rigueur requise. Voilà.
L'idée est bonne, mais il faut changer de responsable.
Donc là, on le vire. Les deux, ils vont le virer. Alors que pourtant, au départ, la société est bien partagée. En trois, il y avait 800 000 euros et 800 000 francs. Alors, ça fait combien, 800 000 francs? Tiens, elle va nous le dire, en euros. Parce qu'à l'époque, c'était des francs. Hein. Non, mais pour les jeunes qui vous écoutent, parce qu'ils ne savent pas ce que c'était que le franc. Hein. Donc, ça fait 6,55. 1,655 à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé, la valeur.
Non,
ça n'a pas changé. Bon, ben, bref, voilà.
Mais cette somme,
elle est partagée avec les trois. Hein, voilà. Et donc, je ne sais pas comment ça se passe, parce que quand il a été viré, on a dû lui donner du pognon.
On ne sait pas. Voilà, dans l'enquête, ce n'est pas forcément marqué. Il est parti, mais il n'est pas parti tout seul. Hein. Il est parti avec
le
projet.
Il s'en va. On va le suivre. Oui. Il va un an après, ou un an et demi après, on voit réapparaître.
Mi-81, il avait déjà l'idée.
Alors, on voit réapparaître son nom.
Oui. Avec la moto française MF.
On voit réapparaître son nom. Un industriel qui, lui, a beaucoup d'argent. Et qui est prêt à l'aider.
Oui, du côté de Vendôme aussi.
À faire ce prototype, à sortir cette moto, la 650 MF, voilà. La moto française.
Alors, il faut savoir que cette MF, l'idée, c'était déjà BFG qui avait eu l'idée, hein, de faire une 650 avec un moteur de Visa ou d'AX. Bocardo part avec la liste des fournisseurs qui avait été faite par BFG. Quels techniciens
Avec trois techniciens de chez BFG.
Voilà, et l'idée du proto. Donc il est parti, il a grillé à BFG l'histoire de la 650.
Voilà.
Il a gagné du temps parce qu'il avait déjà les fournisseurs.
Oui, voilà. Ouais. Et parce que le projet était presque pas abouti, mais
c'était bien avancé. Les fournisseurs étaient pratiquement les mêmes.
Et là, c'est la grosse catastrophe pour BFG, hein, parce que justement, il voulait faire une gamme, une 1300 et puis une 650.
Et il voulait aussi se rapprocher de Ducati. Voilà, il voulait vendre un petit peu au niveau de l'État. Ils voulaient étoffer leur gamme. Donc, Ducati, à l'époque, c'était tout petit.
Alors, il faut savoir que Moto Guzzi, en gros, aussi, à l'époque, l'industrie européenne de la moto,
voilà, elle est très mal.
Elle est moribonde.
Voilà. Donc, Bélier voulait se rapprocher.
Les Anglaises, on n'en parle pas. Guzzi, il est sous perfusion. Ducati, pareil.
Il voulait la grosse cylindrée de tourisme. Et après, étoffer la gamme avec le moteur de la Visa, voilà. Mais aussi des Ducati Panta, des 600 Ducati Panta, Badger, BFG, un accord.
Sauf que le problème, c'est qu'on voit cette moto MF, on les voit dans les revues moto.
Oui, dans Moto Revue.
Et surtout, une des revues qui, si, effectivement, tu viens de le dire, qui était apparemment plus sympa avec Bocardo
qu'avec
BFG. Et ils vont faire un essai pour dire que finalement, ça marche bien. Que,
pour la MF.
Voilà, pour la MF. Pourtant, moi, j'ai vu les photos, c'est laid. Hein.
Elle était laide, oui. Elle n'était pas aboutie. Elle avait surtout aussi une.
On va dire que les goûts, les couleurs.
Ouais, bon, voilà, ça, on en discute. 50 BMW ressemblait aussi.
Pour moi, franchement, je pense que c'est pas.
Non, mais il marche.
À l'époque, c'est pas la moto que j'aurais achetée. Hein.
Il visait surtout le marché de l'État au départ, vend nos administrations. Voilà. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de boîte de vitesse non plus. Ils étaient toujours la boîte de vitesse Moto Guzzi. Et là, ils ont un petit peu triché. Ils ont vendu 10 motos avec des boîtes Guzzi, mais après Moto Guzzi ne voulait plus vendre à un concurrent potentiel des boîtes de vitesse. Donc ils ont triché, ils ont été voir un grossiste qui leur a vendu des boîtes. Voilà, donc ça ne pouvait pas être pérennisé.
Alors, aussi bien que BFG que MF, tous les deux, ils visent le marché public. Les gendarmes, tous les 5 ans, je crois, il y a un appel d'offres, il y a un appel d'offres. Tous les 5 ans, on change de machine, hein, et c'est des grosses quantités, en fait. Hein.
Oui,
alors la police, les gendarmes, la douane.
Donc à l'origine, c'est ça, c'était des contrats pour les gendarmes, la douane, etc. Oui, oui, c'est ce qu'ils voulaient.
Et donc, BFG va prêter quelques machines à la gendarmerie qui vont les tester.
Ouais, ils ont commencé en janvier 82 avec 12 motos. C'était encore des petits moteurs des 1100 égales, c'était presque des protos.
Alors, ouais, c'était en test. Alors j'ai vu qu'il y a eu un petit problème parce que quand ils roulaient côte à côte, alors je sais pas, ils doivent faire des essais, faire des tests. Quand il y avait la radio.
Oui, la radio faisait des interférences.
Ça perturbait l'allumage, ou l'allumage perturbait la radio.
Elle marche avec deux capteurs et puis.
Je sais pas si c'est possible ça, Jean-Yves.
Si, mais.
Parce que la radio perturbe l'allumage d'un moteur.
J'avais des petits soucis au début, voilà. Mm-hmm. Il fallait changer les capteurs, hein, c'était.
Ouais, et puis ou les blinder simplement.
La police n'est pas eu sous souci. Ils n'avaient pas les mêmes radios, certainement. Il n'y a pas eu de plainte de la police.
Voilà, les mêmes fréquences.
Et surtout, le problème, c'est qu'ils demandaient une moyenne cylindrée. Hein, ils préfèrent avoir une moyenne cylindrée, si j'ai bien compris.
Voilà.
Alors, le 650, effectivement, c'était éventuellement possible. C'était envisageable.
Oui, 650 qui roule à 120 maxi.
Mais le problème, c'est que ça fait 35 chevaux.
Oui, voilà,
donc,
35
quand,
chevaux.
Quand
oui.
elle a été testée, j'ai dit il faut avoir plus, faut avoir plus de
l'idée
puissance.
L'idée, c'est qu'ils pensaient s'allier à Citroën et que Citroën pouvait leur gonfler un peu le moteur.
Oui.
Mais Citroën n'a jamais su, parce que ça appartenait à Peugeot.
Alors, Citroën, ça appartenait à Peugeot. Peugeot qui a l'accord avec Honda.
Oui.
Là. Alors, Honda, forcément.
Il fait faire rouler les moteurs Citroën sur Peugeot ne peut pas aider avec des moteurs purement Citroën. L'image de marque de Peugeot était entamée. En tout cas, Peugeot automobile.
Voilà. Donc, tout ça, c'est des problèmes parce que justement, on avance dans le temps, dans le projet. Cette BFG. Moi, je vois les photos à la fin. Ça devient une vraie moto. Hein. Elle est aboutie. C'est une moto qui est aboutie. Hein. Et donc là, il suffit de trouver vraiment un industriel. Il prend l'exemple de BMW parce que BMW, c'est quoi? C'est des voitures.
Oui. Hein et département voiture.
Département voiture et département moto. Il se dit mais pourquoi on fait pas ça en France? On a des gros constructeurs de voitures. Et on pourrait faire pareil. Mais là, c'est un peu prêché dans le vide. Hein.
Là encore, c'est une volonté politique qui a été absente. Si effectivement le gouvernement avait insisté auprès des constructeurs français, peut-être que l'avenir aurait été complètement différent.
Bon, mais ça s'est pas fait.
On va en parler peut-être après.
Et c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient à tout prix un partenaire qu'ils n'ont pas eu. Voilà. Donc ils ont fait en amateur. Bon, ils en ont sorti 400.
On voit le code figure. Donc ils n'ont pas la moyenne cylindrée. Ils vont s'adresser à Ducati.
Voilà.
Avec des moteurs de Panta.
Oui.
Ils vont mettre un autocollant.
Il y avait des alliances qui se faisaient déjà.
BFG, ils vont donc tout simplement donner à la police pour test des Ducati Panta. Ça n'a pas marché. La police n'a pas voulu avoir de Ducati.
C'est comme le rapprochement Harley à Hermaki. Hein.
Voilà,
il y en a un qui courait à sa mort.
Bon, j'ai vu aussi que en fait BFG avait eu dans le sport avait gagné certaines compétitions.
Oui, ils ont gagné le Moto Tour en catégorie sidecar, je pense en 81, 82, faudrait que je regarde mes notes. Et en solo, ils avaient fini 3e ou 4e. Donc oui, pour montrer que les motos étaient peut-être lourdes, mais elles étaient.
Elles étaient fiables.
Effectivement, la BFG était redoutable en solo. Et c'était Etienne Godard, qui était un excellent pilote, hein, amateur. C'était propulsé à la 3e place du classement final des deux manches. Alors ça, c'était sur les journées Ducati qui se déroulaient à Nogaro. Vous pensez peut-être que la moto avait été modifiée,
moto standard.
Parce que le mec était venu avec sa moto de chez lui sur le circuit. Il avait changé quelques petites bricoles lacelles pour que ça fasse voilà. Et puis finalement, il s'est classé troisième. Quatrième et deuxième lors des journées Ducati. Donc c'est une moto
la moto
qui
était bonne. Oui,
et la moto était bonne, voilà.
Ah, il manquait simplement un financier pour qu'elle puisse être produite à grande échelle, parce qu'ils perdaient de l'argent.
Malheureusement, ils ne vont pas le trouver.
Ils ne vont pas le trouver du tout.
Et puis, BFG, ça va disparaître.
Oui, ça va disparaître.
Oh, attends, on n'a pas fini encore.
On n'a pas fini l'histoire.
On n'a fait même pas un tiers
de bouquin. Hein.
On passe un morceau de musique. Oui. On se trouve après. We'll be right back. Bon, Jean-Michel, on voit qui arriver dans cette histoire BFG. un mec qui construit des voitures sans permis.
On voit apparaître Ligier.
Ah non, mais c'était. Attends, il y a quand même eu un passé dans la Formule 1.
Oui, bien sûr.
Pourquoi tu dis tout Ligier après la Formule 1, il est parti à l'inverse. Il a construit des voitures des 49,9 qui font 50 cm3, des voitures sans permis. Alors, parce qu'on est à un moment dans cette épopée-là, BFG, c'est qu'il leur faut de l'argent parce que
des partenaires,
le produit, ça y est, il est fiable. Et on voit sur les photos que c'est une moto aboutie. Hein, ça, voilà. Seulement, le problème, c'est qu'il faut passer à l'industrialisation.
Voilà, et ça coûte très cher.
Et ça, c'est autre chose. Et il faut des fonds. Voilà, ils vont aller voir Ligier.
Voilà, et Ligier, qui était grand copain avec...
Avec qui ?
Avec Mitterrand.
Non.
Ah, incroyable.
C'est pas vrai.
Mais Ligier, lui,
Je te crois pas.
Il voulait faire des pantas.
Il s'est adressé à Ducati.
Directement, oui. Il voulait pas passer par BFG. Voilà. Ça l'intéressait pas.
Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est une affaire, c'est une saga, c'est ce truc.
Voilà, parce qu'il y a des financements qui sont partis du côté de Ligier qui auraient pu servir à BFG.
Voilà.
À l'époque, il y avait beaucoup de motos qui sortaient. Il y avait la Sicardie aussi qui était.
Alors, la Sicardie, oui, il faut voir. Alors là, c'est au salon, je sais plus quoi, Sicardie. Est-ce que ça dit quelque chose?
C'est un constructeur de boîtes.
Ça dit quelque chose, mais effectivement.
Constructeur de boîtes, et de ponts, enfin de ce que tu veux, mécanique. Hein, voilà. Et qui sort au salon, je sais plus quand, un 3 cylindres. Et c'est une machine de
Et là,
ça met un coup au moral de Grange et Vario
parce que
j'ai vu les photos.
Avoir des financements. Oui.
J'ai vu les photos. Alors cette moto, elle est, c'est vraiment une vraie moto. Hein.
Oui.
Ils se disent, ça c'est foutu maintenant. Mais heureusement, c'est resté à l'état de proto. Hein.
Les règlements de compétition d'endurance, etc., ont changé, donc ils n'ont pas pu continuer officiellement.
Voilà, donc la Sicardie, on n'en parle plus.
C'était mis de côté. Ils se sont un petit peu alliés avec les MF, mais.
Avec les MF, oui.
Pour fabriquer la MF.
Ils ont donné un peu d'argent pour fabriquer les MF. Et
mais en fin de compte, comme il y a plusieurs sociétés, donc MF qui s'était mis d'un côté, BFJ qui cherchait de l'argent, Sicardie de l'autre côté, Ligier qui se mettait sur le marché.
Alors,
il y a
plus
beaucoup d'argent.
Et on y arrive, je voulais dire ça, c'est qu'au début, il n'y avait que BFJ.
Oui. Hein,
donc ils demandent de l'argent à l'État parce qu'on leur dit que le chômage augmente, la balance commerciale on est en perte parce que les motos japonaises elles sont vendues, il n'y a plus personne, et donc l'État leur consent des prêts, hein, des prêts, de l'argent pour pouvoir fonctionner. Voilà, et puis après, il arrive ces gens-là, la MF, Sicardie.
Et donc l'argent a été distribué à droite à gauche, on ne savait plus où
ça. Et là, ils ne savent plus où donner de l'argent, donc
ça n'a pas été
l'État se dit, on fait quoi et on donne à qui, voilà. Et donc là, ça, c'est le gros problème aussi. Il y a aussi le problème de la compagnie lilloise des moteurs.
Oui, qui vendait très cher les moteurs.
Alors, ils avaient un prix au départ.
Oui, qui a augmenté.
Et puis après, qui était à 400 en francs, c'était en francs, 4000 euros francs. Et après, ça passait à 5000. Mais comment tu veux faire un prix de.
Voilà, ils n'avaient plus
beaucoup de marge. Comment respecter ta marge si tu n'étais pas sûr du prix de ce que tu achètes?
Donc ils vendaient des composants, mais ils perdaient de l'argent. À la fin, ils perdaient, juste avant qu'ils déposent le bilan, ils perdaient 250 000 francs par mois.
Oui, alors. Le paradoxe, c'est ça. C'est que le cahier de commandes est plein. Il y a des commandes. Sauf qu'ils se disent, il ne faut plus vendre. Parce qu'ils perdent de l'argent. Ils gagnent pas d'argent. Et donc,
c'était le but du départ.
Et leur
repreneur qui n'a jamais.
Et leur compte en banque qui est en train de se vider à ma vitesse grand V. Hein, parce qu'ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils vendent une machine.
Donc ils ont essayé de s'allier
avec. C'est un paradoxe.
Oui, bien sûr. Donc ils ont essayé de s'allier avec d'autres marques. Hein, donc, tout à l'heure, j'en ai parlé. Ils ont essayé de s'allier avec Suzuki, par exemple.
Alors Suzuki aussi, j'ai vu. Oui.
Suzuki,
parce que Suzuki n'est pas planté en France.
Voilà. Et ben Suzuki a répondu tardivement. Ils ont répondu positivement, mais c'était trop tard. Ils avaient fait une alliance avec d'autres personnes, donc avec Motobécane, qui était devenu MBK.
Et puis.
Et ils n'ont pas eu le choix.
De Gaillard, là, Favario et Grange, ils ont transpiré, hein, parce que j'ai vu. Hein, ils ont été voir Tapie. Ils ont téléphoné à Bernard Tapie.
Un autre escroc.
pour leur demander éventuellement s'ils pouvaient s'engager dans l'entreprise. Alors bon. Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait contact avec Nicolas Hulot, qui faisait de la moto, qui était journaliste à l'époque.
Oui. Nicolas Hulot, lui, c'est lui qui est venu voir le premier proto.
Voilà.
Il est venu voir la moto pour faire un reportage. Et en fin de compte, il est venu sans casque, sans rien. Parce qu'une fois qu'il a vu la moto, les gens de chez BFG lui ont dit « Bon, vous pouvez rouler avec. » « Ah bon, elle roule ?»
Oui.
Alors, on lui a prêté un casque, il a essayé la moto, mais il pensait vraiment que c'était un proto statique.
Et Nicolas Hulot les a pris pour des cons, en fait.
Oui, voilà.
Il pensait jamais que cette moto roulait. Il disait, je vais voir un proto qui va peut-être en bois ou ça. Voilà.
Ouais, c'est ce qu'il pensait.
Et en fait, il est arrivé sans blouson, sans casque. Je disais, c'est dans le bouquin. Enfin, ça va, tu l'as lu, le bouquin. Donc, ils lui ont prêté un casque et un blouson. Et il était étonné des capacités de cette moto qui était aboutie, finalement. Et puis aussi, il y a l'histoire. Parce que là, ils vont aller jusqu'au bout pour vraiment s'en sortir. Mais malheureusement, je pense que c'est foutu. Il y a un moment, on va à Favrio, on va lui proposer la médaille du meilleur ouvrier de France. Oui. Tu l'as vu, ça ?
Oui, donc il va...
Donc il faut qu'il se présente à la cour des l'Élysée. Il n'est pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup de meilleurs ouvriers de France. Hein.
Donc il l'a accepté, mais il l'a renvoyé quelques jours après.
Il y a Mitterrand qui s'approche de lui. Mm-hmm. Voilà. Et Favrio dit, Monsieur Mitterrand, malheureusement, je ne peux pas l'accepter. Car vous me donnez une médaille à titre posthume. Et Mitterrand, tout de suite, il a un sursaut. Il dit, attention, parce qu'il y a la presse, la caméra, les micros. Il dit, mais comment ça se fait ? Tout doucement, il dit, comment ça se fait ? Ben, il dit, je vais vous expliquer. De toute façon, si ça continue, on va devoir arrêter la production. Il dit, téléphonez-moi après-demain, et on va voir. Et donc, c'est à partir de là qu'il va y avoir un effet dans l'administration. Alors, tu as raison un petit peu, Jean-Yves, quand tu parles de l'administration, qui est les présidents changent, mais que l'administration reste.
Oui, exactement.
Apparemment, Mitterrand, qui n'était pas au courant, parce qu'il avait dit, a dû se renseigner, et puis ils vont obtenir un prêt.
Oui, ils vont obtenir un prêt, mais à condition de s'allier avec des grosses sociétés.
Voilà, c'est ça.
En concurrence,
ouais. Ligier ou Motobécane.
Ou Motobécane, ils n'avaient pas le choix.
Et hors de question de s'allier avec...
Avec Ligier, parce que Ligier avait fait un peu le traître avec les Pantins, déjà. Donc,
oui, avec MF.
Ils avaient une préférence pour Motobécane, donc ils ont choisi Motobécane.
Voilà. Et
qui a fini par construire quand même des BFG. Voilà. Peut-être pas l'immensité de la conversion.
Oui, mais ils leur ont demandé de déposer le bilan avant. Donc.
Alors non, alors c'était... c'est encore une autre histoire. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Mais parce que donc, effectivement, on va faire encore une séquence sur BFG, vite fait, pour avoir la larme à l'œil. Parce que bon, c'est triste quand même.
Oh, on les fait rouler, nous.
Parce que les deux gaillards, quand tu lis le bouquin, ils ont bien transpiré.
Ils ont cru jusqu'au bout.
Et c'est quand même bien dommage. Et alors, il y a une photo aussi sur les salons. On voit, ils en ont fait 3 ou 4. Et à chaque fois, ça change de président. Il y a Chirac, il y a Mitterrand, il y en a encore un. Ah oui, Valéry Giscard d'Estaing, le fossoyeur de la moto.
Hein.
Avec la vignette, le permis, la vignette.
Tous des gens qui voulaient tuer la moto dans l'œuf, de toute façon. Qui non seulement la moto, mais le monde industriel en général.
Quelle histoire, Jean-Michel.
Oui, encore, on n'a pas tout dit.
Et on n'a pas tout dit parce que celui qui ignore l'histoire est condamné à la revivre. Oui. Et moi, je pense à qui ?
À Vauxhall.
Forcément. Forcément. Bon, allez, on n'est pas triste sur Campus et dans le rendez-vous
Moralité,
de la moto.
Moralité, fabriquez vous-même votre bécane.
Oh, oui, c'est ça, t'as raison. Allez, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. We'll be right back. On est à l'agonie, Jean-Michel, on est à l'agonie. Bah, oui, je parle de BFG. Hein.
Oui, BFG, bien sûr. Hein, oui. Donc BFG, donc
83. En général, 83, voilà. Alors, c'est quoi tes notes?
Donc, il a fallu que. Il y avait un prêt. Voilà, on pouvait leur accorder un prêt si ça liait avec soit Ligier, soit Motobécane. Et à partir de là, ils ont choisi Motobécane, qui était devenu MBK, parce que Motobécane allait très mal.
Et aussi, qui sont alliés à Yamaha. Hein.
Ah, et alliés à Yamaha. Il y avait 10% Yamaha.
Il y a 10% du part de MBK, enfin de Motobécane.
Alors, la production a été délocalisée à Saint-Quentin et voilà. Ils ont obligé la société BFG à déposer le bilan.
Voilà.
Ils voulaient bien reprendre l'ensemble. Donc, en janvier 84, ils ont déposé le bilan. Donc, les motos vraiment BFG, il y en a eu 471 qui ont été faites. Les autres se sont appelées des motos MBK.
On a les mêmes chiffres, c'est bon, oui, je sais bien.
Si c'est le même bouquin,
moi j'ai noté ça.
Hein. Oui, oui, c'est les sources officielles.
Ouais, mais c'est une réédition, je pense. Voilà. Et l'agonie commence. Alors, 83, garde. Alors, on a un ancien commercial avec nous, là, justement. 83 commence par la mise à la cape de la société. Plus de publicité. On congédie les représentants.
Oui, voilà.
Alors, s'il n'y a plus de représentants, on peut pas aller démarcher les
MBK,
les
voulait faire que le marché.
On serre les boulons. Voilà. Les chiffres sont abrupts. La société perd 5000 francs par moto produite. 5000 francs. Alors tu vends une moto et pourtant le cahier de commandes, il est plein. Hein.
Le cahier était plein, mais ils ont honoré simplement les commandes publiques.
Bah, quand on est là, tu fais quoi alors?
Youpi, j'ai perdu 5000 euros. 5000 francs.
Oui, c'est ça.
En fin de compte, le prix
quand
qui
tu vas partir à la moto.
Prix,
non, attends. Ouais. Tu t'es quand même. T'as passé du temps à construire la moto. Voilà. Et puis finalement, tu perds 5000 boules, 5000 francs.
Favario et Grange, ils ont été pendant un an.
Que faire?
Payés.
Oui.
Par MBK.
Oui, ils en ont. Alors ça, c'est pas tout à fait encore la période MBK. Ouais. Hein. Voilà. Les capitaux, ils vont être. Alors, je sais pas si c'est.
Donc, ils n'ont pas investi, ils avaient changé le.
Voilà,
lieu,
voilà bah, de toute façon, il faut produire. Ils ont en vendu 471. Mais ça fait. Parce qu'au départ, ils étaient partis pour produire une machine par jour, ensuite deux machines par jour.
Voilà,
alors, tu fais le total, ça fait 700 machines sur l'année. Et moi, j'ai compté samedi, dimanche encore.
Oui, donc là, 471.
Je sais pas s'ils travaillaient samedi, dimanche, mais bon, voilà. Et ça peut pas être rentable.
Non, c'était pas rentable.
Parce que pour gagner de l'argent, il faut acheter les fourches, les roues, tout ça, tout ce qui est autour de la moto. Par grosse quantité, les fournisseurs là, font des prix.
Bacon n'a pas suivi.
Voilà. Et donc ça. Et puis tiens, en 83, la trésorerie est presque. Ça l'agonie, ça c'est fini. Et puis à ce moment-là, c'est marrant parce que c'est à ce moment-là, la police rend son rapport de comportement des motocyclettes. Et qui disent que finalement, la version BFG, version 1300, est un peu faible en puissance par rapport à son poids, mais est incontestablement une grande routière qui sait allier efficacité et la fiabilité à la sécurité. Finalement,
oui, voilà.
Le rapport de gendarmerie enfin arrive.
Bon. Voilà, arrive un peu tard.
Mais trop tard. On ne se demande pas. Alors, il y a eu trois audits. Il y en a eu un. Bon, on peut, sur une audit, on peut toujours dire bah oui, au Daquet. Et donc, c'est l'État hein, qui a. Alors, l'État, c'est pas forcément le président de la République. Hein, c'est les énarmes.
Si, il est responsable.
Hein. Ah, bah, oui, mais il ne peut pas être responsable de tout. Il ne sait pas tout
son boulot, c'est de savoir.
Donc, un audit pour savoir si c'est viable, effectivement, ce sera positif. L'audit sera positif. Oui, effectivement, mais il faut recapitaliser la société, il faut remettre de l'argent, sinon c'est pas possible. On va demander un deuxième audit. Moi je veux bien, hein, pour être sûr. Mais on va en demander un troisième.
Ça c'était avant MBK.
Oui, c'était
avant MBK.
On n'est pas MBK, toi tu veux tout MBK, mais voilà.
Non,
et, puis on va dire. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, le gouvernement essaye de gagner du temps. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont à l'agonie. Et que de toute façon, il y a un moment, ils vont nous voir déposer le bilan et mettre la clé sous la porte.
Oui,
et justement, pour les faire basculer, soit chez Ligier ou soit chez Motobécane. Voilà. Et donc, c'est en 1986 qu'ils déposent le bilan, qu'ils vont chez MBK à Saint-Quentin.
Non, en 84.
En 84, ouais, voilà.
En 84, et ils ont arrêté, les MBK ont arrêté en 86.
Ouais.
Donc pendant deux ans, MBK n'ont fait qu'à peu près une centaine de motos.
Voilà.
Alors qu'ils avaient une commande de 222 motos. Ils en avaient 70 pour la police, 74 pour la. Et pour les douanes, il y en avait 18. Donc, ils avaient beaucoup de commandes. Ils avaient même des commandes pour l'export. Mais ils en auraient que. Ils ont fait une priorité pour tout ce qui est administration. Donc, ils n'en ont fait que 100.
MBK devait améliorer le produit.
Donc, ils ont amélioré quand même.
Ils devaient améliorer le produit et continuer à la construire, en fait, cette moto.
mais ils voulaient pas la construire.
Voilà. Mais en fait, c'était un leurre. En fait.
Oui, c'était un leurre.
Voilà. Parce que apparemment, Grange et Favreau, ils sont restés 2 ans dans un bureau.
Ah non, interdiction d'aller à l'usine.
Ah oui, interdiction d'aller à l'usine.
Ah, ils étaient payés, mais ils pouvaient pas rentrer.
Ah, ils étaient payés, pas, mais pas le droit
d'aller. Mais ils étaient déjà contents. Parce qu'une partie du personnel,
donc c'est
une partie du personnel d'origine BFG était gardée. Donc c'est ce qu'ils voulaient. Faire pérenniser. Mais ils n'ont pas eu le droit de rien.
Voilà.
Interdiction de venir.
Donc finalement, ce serait peut-être une autre émission, ça, parce qu'on part donc MBK, après, il y a MF avec Bocardo, et puis on a parlé de l'aéro 80, l'aéro machin, moto, là, je ne sais pas.
Diesel.
Diesel, parce que ça, c'est encore. Ça pourrait faire le sujet d'une émission. Et puis, ce qui se passe, c'est que MBK va décider d'arrêter la fabrication. Hein.
Voilà, donc
ils ont un hangar complet de pièces.
Oui. Donc
et ils disent, mais nous, on veut plus ça.
Voilà, il y a quelqu'un qui va.
Non, ils veulent carrément mettre ça à la poubelle.
Oui, c'est ça.
Ils appellent des ferrailleurs, enfin tout ce que tu
veux. Il y avait l'équivalent de 15
semi-remorques. Et qui c'est qui va ramener racheter les pièces?
C'est à Seclin, c'est l'atelier
non,
précision.
Non, c'est pas Seclin.
C'est
la précision. C'était à Paris.
D'accord, mais après
c'était à Paris. Et non, alors c'est resté quelques années donc à la société Précision à Paris, voilà, qui a vendu des pièces. Alors il y avait des motos qui étaient pas tout à fait construites. Enfin, ils ont tout récupéré, voilà.
Et il y avait une trentaine qui étaient à peu près construites.
À peu près construites.
Époque
ouais.
Voilà. MBK.
Et l'atelier Précision à Paris, ils ont fait 10, ça. Je sais pas où ils ont mis tout ça. Ils ont dû aller louer un hangar. Oui, parce qu'il faut parler parce qu'il y a un club maintenant BFG. Ah, il y a le club depuis la création de la
l'atelier Précision de 87 à 96. Oui. Et à fabriquer ces pièces.
Et effectivement, Précision à Paris, ça va fermer aussi. Ils vont devoir. Et qui c'est qui va racheter Précision?
C'est Club BFG qui va racheter tout le stock de Précision.
Voilà, BFG. Donc BFG, c'est pour l'instant, ça marche encore. Il y a encore des moteurs BFG encore.
Et bien sûr, il y a plein de.
Ouais.
J'ai même trouvé un
moteur. Au niveau moteur, il n'y a pas de problème.
J'ai trouvé un moteur neuf, 0 km.
Si, moi j'ai racheté au Club BFG les deux lignes d'échappement.
Voilà.
Voilà.
Et parce que moi, quand je les avais fabriqués en tronçonnant du tube et en soudant des parties coniques, ça m'avait pris quasiment un mois pour faire une sortie d'échappement. À un prix très intéressant, c'est étouffé, à les faire cramer.
Et au Club BFG, ils refabriquent toutes les pièces d'origine BFG, sauf le moteur, qui est un moteur Citroën, mais on peut tout trouver.
Voilà.
Ils ont refabriqué les moules, on retrouve tout.
Truc intéressant, si tu veux des pièces moteur Citroën, des GS, tu t'adresses en Allemagne. Il y a un stock de pièces moteur Citroën en Allemagne.
Oui, j'ai trouvé plus près, à Saint-Quentin.
Voilà.
Saint-Quentin, il y a aussi des stocks.
Ça, vous verrez tout à l'heure.
Voilà, j'ai une boîte de vitesse.
Pour les pièces. Est-ce qu'on a fait le tour un peu de la question?
Je pense, au niveau de BFG.
Je pourrais rajouter que moi, j'ai commencé mon proto avant que BFG n'existe.
Bien sûr.
Et je l'ai passé aux mines, BFG était en faillite. Ça m'a pris 10 ans quasiment.
Alors que on reprend le gros titre de Thierry Cazenave.
Il faut acheter son bouquin.
Trahison, dérapage médiatique, lutte d'influence, bataille politique, rebondissement. Je pense qu'on a bien
un tout petit peu de tout ce qui
s'est passé.
On a
bien raconté l'histoire quand même. Et c'est pas fini en plus.
Oui, encore. La partie MF.
La partie MF, et puis on reviendrait aussi, on pourrait revenir sur. Et puis on sait pas si ce. Fameux Louis Bocardo, il est encore vivant ou on sait pas.
Je sais pas.
Parce qu'apparemment, il est parti avec une grosse facture à payer et on l'a pas retrouvé. Il a pas laissé de trace.
Sur internet, on trouve pas de trace.
Non, on trouve pas de trace nulle part. Donc c'est peut-être pour ça qu'on sait pas s'il est encore vivant.
À mon avis, il doit avoir aucune des créances.
Parce que maintenant, il doit bien avoir 80 ans.
Il se fait discret. 75.
Il se fait discret, oui. Oui, il met pas sur Facebook tout ça. Il met pas les.
Est-ce
qu'il a pris en photo ou mangé hier soir?
Certainement.
Bon, on a fait le tour, Jean-Michel.
Oui.
Écoute, on se donne rendez-vous pour une prochaine, pour finir ce livre.
Oui.
Hein, et je rappelle qu'il faut pas hésiter à l'acheter parce que.
Oui, c'est vraiment une mine d'informations.
On a survolé le sujet, mais il y a plein d'anecdotes qui sont vraiment. C'est succulent comme bouquin.
Mais il faut lire les 600 pages.
Si tu tapais.
C'est déprimant, surtout.
Une journée et demie pour le lire, là. Voilà. Et déprimant, déprimant, oui. Oui, alors, et puis après, je veux dire, de toute façon. Et alors, ce qui arrive après, c'est le 26 décembre 1995. Toi, tu dois le savoir.
Ah, c'est l'aventure Vauxhall.
C'est la création de Vauxhall.
Oui. Alors là,
qui, malheureusement.
C'était pas le même contexte, mais ils ont eu que des misères
mais
aussi.
Mais qui va terminer dans la même misère que BFG. Voilà. Bon, ben les poteries sont passées un morceau de musique.
Oui, non, mais moi je m'en fous. J'ai on est dimanche et j'ai encore une BFG qui roule, donc ça va très bien.
On est là pour rigoler quand même.
Oui, bien sûr.
Allez, ouais. Musique. Voilà, l'émission se termine. Merci, merci Jean-Mi pour le.
De rien, c'était avec plaisir.
Pour cette histoire invraisemblable de la BFG. Incroyable.
Bah oui, c'est incroyable.
Et alors Jean-Yves aussi, hein, Jean-Yves qui a rencontré monsieur Bocardo, là, et qui en garde un très bon souvenir. Merci Jean-Yves, il n'y a pas de micro. Et puis on remercie, c'est Laurent. Et à dimanche prochain, si vous voulez.